Bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et pour l'émission de ce mois-ci, alors qu'on entre dans la saison des bilans de fin d'année, des résolutions pour l'année à venir, les plans, les objectifs et tous ces sujets-là, je me suis dit que c'était le bon moment pour la dernière émission de l'année de vous parler un petit peu de mon bilan de fin d'année, où j'en suis, comment je le fais, etc. Comment je mets au point un petit peu la direction que j'ai envie de prendre pour l'année à venir, si vous souhaitez faire un petit peu le point sur votre année. Et je vais en profiter pour vous parler de comment faire face à des changements de vie et à la sortie de zone de confort, que ce soit voulu parce que vous avez des objectifs et des envies pour l'année à venir qui vous sortent de votre situation actuelle, ou parce que des circonstances ont changé hors de votre volonté, mais qu'il faut bien s'y faire. Pourquoi je souhaite aborder ce sujet avec vous aujourd'hui? Parce que j'ai moi-même fait face à des changements cette année 2023, qui est l'année où j'enregistre ce podcast, et de manière générale, en tant qu'artiste indépendante, j'ai choisi une voie qui est un petit peu en dehors des rails habituels de la société, et ce n'est pas la première fois que je me confronte à une sortie de zone de confort avec tout ce que ça peut entraîner comme peur, doute, etc. Le grand changement de vie que j'ai vécu cette année se tient dans ma vie professionnelle. Depuis plus de 7 ans, je suis chargée de communication indépendante dans le jeu vidéo et pendant 6 ans et demi, j'ai travaillé pour un studio en particulier où j'avais peu de temps et de disponibilité malheureusement pour d'autres missions. Ce qui s'est retrouvé du coup être ma source de revenus principale pendant 6 ans et demi. Et cette année, ce contrat a pris fin et il a fallu remettre à plat mon activité professionnelle et me demander de quoi j'ai envie à partir de maintenant dans ma carrière professionnelle d'un côté, mais aussi au sujet de comment assurer les revenus nécessaires pour faire face aux dépenses domestiques, ce qui est quand même un sujet assez courant quand on parle de carrière professionnelle, puisque la plupart d'entre nous faisons carrière pour pouvoir payer les factures. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un gros changement de vie, puisqu'il entraîne tout un tas de questions sur ma voie professionnelle, sur mes revenus, et du coup, par conséquence de toutes ces questions-là, ça pose des questions sur la vie que je souhaite mener, d'un point de vue personnel et domestique. Ça pose aussi la question de comment ma vie d'artiste indépendante et mon activité d'éditrice pour Café aux Étoiles, qui est ma maison d'édition, entre en jeu dans tout ça. Dans une société comme la nôtre, tout ce qui touche au portefeuille a un impact sur beaucoup d'autres aspects de la vie, par exemple autour du lieu où on vit, la région, le logement en lui-même, ça pose des questions de train de vie. Et tout ça, ça pose une question qui est à la fois simple et complexe, qui est quel genre de vie on a envie de mener ? Est-ce qu'on préfère la sécurité du salariat, la liberté du freelance, la vie parisienne ou déménager en province? Là, bien évidemment, je parle de questions qui concernent ma vie à moi. Mais c'est vrai que dès qu'on touche à la question de la carrière professionnelle et des revenus, ça pose des questions de vie beaucoup plus globales. C'est donc un gros changement de vie que j'ai vécu cette année au moment où j'enregistre ce podcast. Et c'est de ce genre de changement dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Ces changements que nous vivons toutes et tous au cours d'une vie, qu'ils soient voulus ou subis, et qui tournent une page dans notre vie. Ce peut être un changement professionnel, comme c'est mon cas aujourd'hui, mais aussi un changement de logement, de situation familiale, de santé, de choses comme ça. Et ça peut être des changements plus modestes aussi, hein, pas forcément des choses qui remettent en question toutes. Le mode de vie, ça peut être des choses beaucoup plus modestes, mais qui entraînent tout de même des changements dans les habitudes et les routines quotidiennes. Donc déjà, ce genre de changement est l'occasion de faire un bilan. Où en suis-je ici et maintenant? Qui suis-je devenue? Quelles sont les cartes que j'ai en main présentement? Que m'ont apporté mes expériences passées? Et quels sont mes atouts actuels pour rentrer dans le prochain chapitre de ma vie? Ou de cette zone-là de ma vie, si c'est un changement particulier. Puis c'est l'occasion avec ce bilan de se demander de manière plus générale où ai-je envie d'aller maintenant? Évidemment, cette étape est plus facile quand le changement de vie est voulu, puisque l'impulsion vient de soi, c'est un changement qu'on a initié. Et par contre, c'est une étape plus difficile quand le changement est subi et qu'il faut apprendre à faire avec, se relever, reprendre la souveraineté sur notre vie et se demander Ok, c'est là que j'en suis maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, de quoi ai-je envie et besoin pour moi-même à ce moment-là de ma vie? Ce sont des questionnements que je traverse depuis plusieurs mois en coulisses et que je me sens en capacité de partager avec vous aujourd'hui si jamais certaines pistes peuvent vous aider dans votre vie. Et bien sûr, on va parler de tout ce qui est mise au point de la vie et dans quelle direction on veut aller, même si vous n'avez pas de gros changements qui s'en viennent, hein, même si c'est un bilan dans un quotidien qui, pour l'instant, est stable pour vous. Déjà, un premier truc que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que nous sommes légitimes à décider ce qu'on veut pour nous-mêmes. Mieux que ça, non seulement nous sommes légitimes à faire nos propres choix de vie, mais nous sommes les mieux placés pour le faire. Personne ne nous connaît autant que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous avons accès à nos besoins, nos envies, nos capacités, nos expériences passées. Personne d'autre que nous, même, n'avons une vision d'ensemble de qui nous sommes, de quoi nous sommes capables, et donc personne n'est mieux qualifié que nous-mêmes pour faire des choix de vie sur la direction qu'on veut donner à un aspect particulier ou notre vie en général. C'est une question de confiance en soi, quelque part. Et c'est une chose que j'ai senti le besoin de me rappeler à moi-même ces dernières semaines. J'ai confiance en mon propre jugement. Je sais ce qui est bon pour moi. Si je m'écoute, je suis capable de trouver une solution alignée avec moi-même, même si elle est en décalage avec la norme de la société ou avec les conseils que me donne mon entourage. Et en fait, cet ancrage-là est hyper important à mon sens, capital à mon sens, c'est-à-dire de se faire confiance qu'on est capable de diriger notre propre navire dans une direction qui nous est propre, qui nous convient et qui nous correspond. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute personne et qu'on n'en fait qu'à sa tête, hein. Et qu'on ne tient plus compte de personne et qu'on fait sa petite vie. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va réfléchir à ce qu'on veut pour soi-même, et qu'on va se renseigner un petit peu autour de nous sur ce qui est possible, que les gens nous donnent des conseils, etc., on fait confiance à notre capacité de trier ces conseils, en fait, de trier les informations, les options, et on fait confiance dans notre capacité à choisir ce qui nous paraît le plus juste pour soi. C'est-à-dire qu'on a confiance dans notre propre jugement et dans les propres décisions qu'on prend, on a confiance dans notre propre intuition. Même si on peut accorder beaucoup de valeur aux conseils des gens qui nous entourent, on se fait confiance de savoir ce qui est le meilleur pour soi-même. Alors c'est pas forcément évident à faire, si j'ai eu besoin de me le rappeler à moi-même, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs vous verrez si vous suivez la chaîne YouTube Florie Teller que je vais présenter, je sais plus dans quel ordre ça sort, donc au moment où sort ce podcast, je sais plus si la vidéo est sortie ou pas, mais je vais vous présenter mon mot de l'année, mon mot de l'année 2024, ce sera confiance. Justement dans ce but-là, pour ancrer cette confiance en soi-même qui n'est pas forcément naturelle. Mais je voulais au moins planter la graine dans votre esprit, même si c'est pas forcément naturel de cultiver cette confiance dans notre propre jugement par rapport à nous-mêmes et notre propre vie. J'avais envie de vous le rappeler. Si vous avez besoin d'une personne qui légitime la démarche de vous poser pour réfléchir et faire le bilan tranquillement, de vous demander de quoi vous avez envie dans l'année qui vient, écoutez-vous et faites-vous confiance, autant que faire se peut. Pour en revenir à la question des changements de vie, des changements de cap, des décisions, des choses comme ça, tout changement, qu'il soit voulu ou subi, est un rappel de l'impermanence de la vie. Un rappel que rien n'est éternel, tout prend fin un jour. Et ce rappel-là peut être déstabilisant. Pour moi, il a généré des émotions de peur, d'appréhension, et ce changement a exacerbé mon besoin de sécurité et de stabilité. Un changement, ça vient avec une perte de repère, en quelque sorte, puisque c'est quelque chose qui était stable dans notre vie, qui change. Donc c'est normal que ce soit émotionnellement déstabilisant, c'est normal que ça coûte de l'énergie mentale et émotionnelle. On va arriver à un nouvel équilibre une fois qu'on aura fait le bilan, décider quelles décisions prendre et que les choses se mettront en place. Mais en attendant, entre ce début du changement et ce nouvel équilibre, on vit dans une période de transition. Quand on veut aller vers quelque chose d'autre, il y a une phase de transition. Et comment peut-on vivre cette période de transition au mieux ? Et de manière générale, même si vous n'êtes pas en train de vivre un grand changement de vie cette année, mais que vous êtes tout simplement dans une phase assez classique de bilan de fin d'année, de points pour vous demander où diriger votre vie ou un projet en particulier à partir de maintenant, je pense que ces étapes que je vais vous présenter dans le reste du podcast restent intéressantes à suivre pour ancrer nos objectifs, ancrer notre direction, pour les aligner avec qui on est et ce qu'on veut pour soi, au lieu de se précipiter la tête première dans l'action. Sachant que quand on est en plein changement, c'est d'autant plus difficile parce qu'on a une perte de repères. Et du coup, ce sont des étapes qui aident à s'ancrer. En tout cas, moi personnellement, je ne fais que partager dans ce podcast des choses qui m'ont été utiles à moi et à vous de tester et de voir ce qui s'adapte à votre vie. Mais moi, ces étapes-là m'ont énormément ancré ces dernières semaines. Si vous êtes dans une phase de bilan classique où il n'y a pas de changement particulier, c'est simplement des étapes qui vous donnent des points de repère si vous en avez besoin. Personnellement, je les ai utilisées pour naviguer donc un changement compliqué que j'ai vécu cet été qui est une transition professionnelle, chercher des nouvelles sources de revenus, etc. Mais je pense que ce sont des étapes utiles pour prendre le temps de poser un socle solide avant de rentrer dans les nouvelles habitudes et projets de l'année à venir si vous écoutez ce podcast en fin d'année. La première étape, c'est de laisser la place aux émotions. Ne pas les fuir, ni y réagir de manière immédiate, mais se laisser la place pour les vivre, pour les écouter, pour les identifier et pour les laisser être à l'intérieur de soi. Par exemple, lors de mon burn-out il y a 7 ans maintenant, j'en avais un petit peu parlé en début de podcast puisque j'ai lancé les bulles nomades quelques mois après mon burn-out, a posteriori, je me rends compte que j'ai beaucoup enfoui mes émotions et j'ai beaucoup fui mes émotions. Au lieu de prendre le temps de les écouter et de les honorer, je me suis un peu jetée la tête première, j'ai révisé le CAPES d'anglais, après je me suis mise en freelance et je me suis jetée la tête première dans toutes les opportunités sans vraiment réfléchir à ce dont j'avais envie et besoin. Et aujourd'hui, je regrette un petit peu de ne pas avoir davantage déjà profité des quelques mois de répit que j'ai eu à ce moment-là, de transition justement, et de ne pas m'être suffisamment écoutée pour poser un socle solide pour cette transition. Alors, c'est complètement ok, je m'en rends compte a posteriori, je vous en parle qu'en guise d'exemple, mais j'ai beaucoup de compassion pour la Florie du passé et tout ce qu'elle a vécu à cette époque. J'ai fait de mon mieux avec, j'ai fait ce que je pouvais en fait avec ce que je vivais à cette époque-là. Donc je n'ai absolument aucune culpabilité ou ressentiment envers moi-même pour ça. C'est tout à fait ok de gérer nos ressentis comme on peut, surtout quand on vit un changement compliqué. Simplement le fait d'avoir vécu ça à l'époque, j'ai pas envie de recommettre la même erreur ce coup-ci, et ce coup-ci j'ai envie de davantage profiter de la lenteur de cette période de transition pour être en introspection, pour m'écouter et pour donc traverser ces trois étapes, dont cette première étape qui consiste à laisser la place aux émotions. Donc si vous-même vous vous en sentez capable, ou tout simplement si vous n'avez pas de changement crucial en vue au moment où vous écoutez ce podcast, je trouve que c'est important, quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans le quotidien habituel, de prendre le temps d'être à l'écoute de soi, de se donner la patience, d'encaisser si vous vivez un changement difficile, de ralentir, de vivre les émotions. Je me suis invitée moi-même, et du coup je vous invite aussi à ne pas être pressée de retourner à un nouvel équilibre, ou de ne pas être pressée d'avoir atteint le prochain objectif, mais plutôt de vivre cette transition, de vivre ce processus de mise en place des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes, pleinement, à votre rythme, pour poser le nouvel équilibre sur des bases saines. Pour explorer vos émotions, en tout cas moi pour explorer mes émotions, je me pose des questions du type « De quoi ai-je besoin en ce moment ? Pourquoi ai-je posé cet objectif, ces résolutions pour moi-même ? Qu'est-ce que j'en attends ?» À quoi ça répond comme besoin ? Comment est-ce que je me sens en cette fin d'année ? Quels événements, accomplissements, apprentissages m'ont marqué cette année et pourquoi ? L'idée, c'est de prendre le temps d'entrer en lien avec moi-même et de m'écouter. Et pour moi, c'est vraiment la base, en fait, le socle pour prendre une direction alignée, c'est d'avoir une discussion avec moi-même quelque part et de m'écouter parce que les émotions sont des signaux de soit si c'est des émotions constructives et agréables, c'est des signaux qu'on est en train de répondre à des besoins, qu'on est en train de s'aligner, qu'on est en train de faire des choses qui sont bonnes pour nous et qui nous font vibrer, qui nous enthousiasment, etc. Et si on vit des émotions désagréables, c'est un signe qu'on a des besoins fondamentaux humains qui ne sont pas remplis, des choses qui nous insatisfont. C'est un peu un signal d'alarme que justement, il y a peut-être des choses à changer pour se réaligner. Du coup, pour moi, la base de tout ce processus, c'est de prendre le temps d'accueillir les émotions. Ce qui nous mène ensuite à la deuxième étape, qui consiste à gagner en clarté. Gagner en clarté, c'est un mélange de comprendre nos émotions issues de la première étape, écouter notre intuition et être conscient de nos pensées et de trier nos pensées pour voir avec quoi on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Dans la situation actuelle, avec les cartes qu'on a en main, comment se sent-on? Où est-ce qu'on en est? Et que veut-on vraiment pour la suite? Cette étape de clarté consiste à prendre le temps de se demander à l'intérieur de soi ce qui nous appelle vraiment, au lieu de se laisser guider inconsciemment, soit par des décisions passées qu'on perpétue, des injonctions sociales qu'on suit un petit peu inconsciemment parce qu'on les a toujours suivies, ou uniquement suivre les conseils extérieurs sans se demander ce qu'on en pense nous intérieurement. Comme je le disais plus tôt, on continue à écouter tout ce qui nous entoure. On se dit pas que d'un seul coup, les influences extérieures et les conseils extérieurs n'ont plus de valeur, c'est pas ça du tout. Mais cette étape de clarté, en fait, permet de prendre le temps de filtrer toutes ces informations extérieures qui nous viennent. C'est une étape qui nous permet d'être honnête avec soi-même sur ce qu'on veut pour soi, ce qui est vraiment aligné avec nos valeurs, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et parmi les conseils extérieurs, les pistes, les ressources, etc., on va venir trier et garder celles qui nous aideront à avancer vers ce qui nous parle nous. On sélectionne ce qui nous appelle nous-mêmes, en fait, ce qui nous parle à nous. Si vous ne vivez pas de gros changements de vie, cette étape permet de faire un point avec clarté sur l'état actuel des différents aspects de votre vie. Qu'est-ce qui vous satisfait encore aujourd'hui? Quels choix et engagements sont encore alignés avec la personne que vous êtes devenue maintenant? Mais, si vous êtes honnête avec vous-même, quels éléments ne vous conviennent plus vraiment dans votre vie actuelle? Avez-vous envie d'apporter certains changements? Y a-t-il des choses que vous avez envie d'explorer? Des choses qui attisent votre curiosité, que vous voudriez, dans quoi vous voudriez vous lancer? Cette étape permet de partir de nos envies, de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, plutôt que de se laisser guider par ce qui est déjà familier ou de se laisser porter par la peur du changement, qui est par ailleurs tout à fait humaine et légitime. C'est une façon, comme dirait Simon Sinek, de commencer par le pourquoi plutôt que par le quoi. Le quoi étant la zone de vie en elle-même sur laquelle vous travaillez, ou le projet en lui-même sur lequel vous travaillez, ou tout simplement votre vie. C'est aussi une manière de réévaluer un petit peu où on en est et où on a envie d'aller, au lieu de se laisser guider par les rails que le mois passé a posés. En fait, on fait des choix, on prend des engagements dans la vie, et puis après on se laisse guider dans le quotidien, puis on continue à le faire, sans vraiment remettre en question, sans vraiment se demander si ça nous convient encore, si ça nous apporte encore de la valeur, etc. Donc là, le fait d'avoir cette étape de clarté, de vraiment se poser la question, ça évite d'avoir la sensation de stagner, de se reposer sur nos lauriers, ou de perpétuer quelque chose qui ne nous convient plus vraiment. Et au contraire, ça permet de prendre conscience de qui on est devenu aujourd'hui, en fait, et de ce qu'on a envie d'accomplir, de changer, d'approfondir aujourd'hui. Ça permet de prendre conscience de ce qu'on aime aussi et de ce qui nous rend déjà heureux. Parce que là, je parle de changement, mais le fait d'avoir cette clarté nous permet aussi de cultiver la gratitude. C'est-à-dire que ça nous permet de prendre conscience que notre vie peut-être nous apporte déjà beaucoup de satisfaction telle qu'elle est, qu'il y a plein d'aspects de notre vie qui nous plaisent déjà, en fait, aujourd'hui. Et le fait d'en prendre conscience avec cette étape de clarté permet de cultiver de la gratitude pour ce que nous avons déjà, au lieu de le prendre pour acquis et de se concentrer toujours sur ce qu'on n'a pas encore ou ce qu'on n'a pas encore accompli. Par exemple, malgré tous les changements que je suis en train de vivre en ce moment et malgré le fait où je ne sais pas encore où je serai dans les années à venir, cette étape de clarté m'a aidé à prendre conscience que j'aime beaucoup ma vie parisienne telle qu'elle est aujourd'hui. J'aime mon appartement, J'aime le nid que j'ai confectionné avec mon mari et j'ai envie de prendre le temps de me sentir reconnaissante pour ça et de profiter de mon appartement au lieu de me focaliser sur un possible déménagement futur. Cette étape de clarté est d'autant plus importante si vous êtes, comme moi, en pleine phase de transition dans un aspect ou un autre de votre vie. Par exemple, je suis en train de réévaluer toute ma vie professionnelle en ce moment, en tant qu'artiste plurielle et chargée de communication indépendante, et j'ai envie que mes décisions pour 2024 soient basées sur l'enthousiasme, la curiosité, ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie d'apprendre et de construire moi, pour moi-même, pour ma carrière, pour ma créativité. Je n'ai pas envie que mes décisions soient basées sur la peur, par exemple, de manquer de revenus. Ce qui est une peur, encore une fois, tout à fait légitime quand on touche à la carrière professionnelle. Gagner en clarté sur ce que je veux me permet de partir sur cette base-là, donc la base positive de ce qui m'enthousiasme, de ce qui m'inspire, etc., plutôt que de me laisser guider par ces peurs-là, même si leur existence est tout à fait légitime. Là, je viens de perdre ma source de revenus principale et j'habite dans la région la plus chère de France. Évidemment que j'ai peur de manquer d'argent. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Surtout qu'en tant qu'indépendante, je ne touche pas de chômage. Donc c'est tout à fait normal d'avoir un besoin de stabilité et de sécurité qui n'est pas rempli. Mais on peut accueillir ce genre de peur, tout à fait normal, tout à fait humaine, tout à fait légitime, sans lui laisser le gouvernail de notre navire pour autant. Et c'est ça la subtilité que j'ai comprise ces dernières semaines. Pour moi, prendre le temps de gagner en clarté sur qui je veux être, qui je deviens, ce que je veux accomplir et pourquoi, ce qui me parle, ce qui m'enthousiasme, etc. Tout ça, c'est une manière de ne pas laisser mes peurs prendre le pouvoir. Même si je les écoute, sachant que ces émotions-là signifient un besoin, c'était la première étape, si vous vous rappelez, d'être à l'écoute de nos émotions. Donc j'ai été à l'écoute de mes peurs. Mais je ne leur laisse pas les clés du véhicule de ma vie. Par exemple, dans mon cas, pour vous donner un exemple du genre de choix qui va être guidé par l'enthousiasme et la curiosité et l'inspiration plutôt que par la peur de manquer, je suis très claire sur le fait que je souhaite donner une place de choix à l'art et à la créativité dans ma vie de manière générale. Je souhaite donc que la manière d'assurer mes revenus prenne ce paramètre en compte. C'est pour cette raison que je souhaite rester indépendante pour l'instant et que je ne cherche pas de poste salarié, parce que ça me donne plus de flexibilité pour consacrer du temps à mon art, à ma créativité, à ma maison d'édition, etc. Mais, très intéressant, en faisant ce travail introspectif, j'ai aussi découvert que j'aime beaucoup travailler dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu de la culture populaire en général. Ça nourrit mon imaginaire en tant qu'écrivaine, puisque j'écris moi-même des histoires de l'imaginaire de culture populaire, si vous voulez. Et ça fait partie de mes goûts de lectrice, de joueuse. C'est un milieu qui m'enrichit énormément en termes d'inspiration et de possibilités créatives côté communication. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de faire un plan de communication sur un jeu vidéo que sur une nouvelle ligne de papier toilette, si vous voulez. Et du coup, en faisant cette introspection, je me suis rendu compte que je n'ai pas envie d'abandonner ma carrière dans la communication de jeux vidéo. Peut-être que si j'avais pas pris le temps de gagner en clarté, je me serais jetée sur une solution qui consisterait à ne vivre que de mon art, par exemple, à me reconvertir complètement, alors que là, ce travail de mise en clarté me permet, comme je vous le disais plus tôt, de filtrer les différentes options pour venir sélectionner et expérimenter les possibilités qui sont alignées avec ce qui compte pour moi et avec ce qui m'enthousiasme aujourd'hui. Et rien n'empêche de réévaluer ces choix-là dans le futur si je constate en expérimentant que certaines choses ne me conviennent pas autant que je le pensais, ou bien si la réalité côté revenu me rattrape et que je dois faire certains choix purement matériels. Et maintenant, ces cas-là, je referai une mise en clarté en tenant ces contraintes, en tenant compte de ces contraintes-là, pour voir de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui me paraît le plus aligné avec les contraintes de vie à un moment donné. Mais au moins au départ, je pars de moi-même, de qui je suis, de qui je deviens et ce qui m'appelle le plus aujourd'hui avec les cartes que j'ai en main aujourd'hui et dans les circonstances matérielles dans lesquelles je suis aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Enfin, la troisième et dernière étape consiste à passer à l'action. Pour moi, c'est la toute dernière étape et non pas la première sur laquelle on a tendance à se jeter quand on fait le point et qu'on se fixe des objectifs. Une fois qu'on s'est stabilisé émotionnellement et mentalement, qu'on a commencé à explorer les possibilités et qu'on est au clair sur les leçons qu'on tire du chapitre de vie précédent et qu'on est au clair sur où est-ce qu'on veut aller pour le chapitre suivant, alors seulement on commence à explorer les pistes en passant à l'action. L'esprit ouvert, depuis un état d'esprit d'ancrage, de confiance et d'espoir, qui est nourri par le fait qu'on accueille nos émotions, qu'on est à l'écoute de nos besoins et qu'on se sent aligné. Quand on se sent ancré dans les choix qu'on fait ici maintenant, on cultive un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus confiant, beaucoup plus curieux. Comme je le disais plus tôt, je trouve que ça permet de passer à l'action de manière beaucoup plus sereine, parce qu'on est porté par notre vision, on est porté par le fameux « pourquoi » de Simon Sinek, plutôt que par des peurs du type « peur du manque », etc. Et en fait, ça vient mettre en place un cercle vertueux dans la mise en action. Parce qu'en fait, avec ce socle plus solide et ancré, on dégage davantage de confiance, de sérénité et d'ancrage dans notre attitude, dans notre gestuelle, dans la manière de parler des projets qu'on a, etc. Et ça, les personnes en face de nous le ressentent. On se trouve dans une posture, en fait, qui vient rassurer les gens en face, qui facilite du coup la réussite des pistes qu'on met en place. On passe à l'action depuis une énergie beaucoup plus constructive, ce qui est beaucoup plus propice à la réussite de nos projets. Par exemple, moi, en tant que chargée de communication indépendante, si je viens contacter, mettons, une agence avec qui travailler en tant qu'indépendante, si je viens avec une attitude qui est confiante, qui est ancrée, qui est enthousiaste, où j'ai super hâte de voir où va m'emmener ma carrière de communication dans le jeu vidéo et ce que je vais être en mesure de faire à partir de maintenant, la personne en face va le sentir. Elle va se dire « Ah bah tiens, Florie, elle est confiante, elle est compétente, ça va être une bonne partenaire avec qui travailler. » Par contre, si j'arrive en étant guidée par des peurs, par la peur de manquer de revenus, et que la personne en face a l'impression que je me précipite à ses pieds parce que j'ai besoin d'argent, et qu'il n'y a que ça qui compte, mais qu'en fait, je ne suis pas très très sûre d'avoir envie de le faire, ben, même inconsciemment, la personne, elle le sent dans le non-verbal, dans l'attitude, dans le choix des mots et dans le ton sur lesquels on prononce les mots. La personne va le sentir et sera peut-être moins à même d'offrir une mission, par exemple. Donc vraiment, l'énergie avec laquelle on se présente au monde, y compris inconsciemment, hein, ça a été vachement étudié, ça, tout ce qui est... attitude non verbale, etc., ça a un vrai impact sur la manière dont on est reçu par les gens, quelque part. Donc du coup, si on arrive dans une posture qui vient rassurer les gens, qui met en confiance, bah, de fait, ça rend la réussite de nos projets et de nos envies et de nos expérimentations plus probable. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Maintenant, comme dans toute sortie de zone de confort et de processus d'expérimentation, on peut aussi commettre des erreurs et tenter des options qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est tout à fait OK aussi. Et c'est aussi un truc que j'ai appris ça avec le temps, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre en place un truc et que ça marche tout de suite, et que si ça marche pas tout de suite, ça ne marchera jamais. C'est pas vrai. La réalité, elle se fait par expérimentation, par essai-erreur, par ajustement, avec le temps. C'est pas ça marche ou ça marche pas. Si on essaye un truc... peut-être ça marche, peut-être va y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, si on n'essaye pas, ça risque pas de marcher, vous voyez. Du coup, l'idée, pour moi, c'est de se dire qu'on met en place une aventure, on commence un voyage, et c'est OK de se tromper de route, de tomber dans une ornière ou de ramasser le mauvais champignon, si vous voulez. Le plus important, c'est de garder un état d'esprit d'exploration, d'essai-erreur, surtout de ne pas avoir peur de commettre des erreurs. Comme je disais au début, l'important c'est de se faire confiance, de savoir ce qui est bon pour nous-mêmes, de garder le cap et de savoir qu'on saura réévaluer et trouver les ressources et solutions le moment venu. C'est-à-dire que si on est face à une erreur, à un échec, à une difficulté, on se fait confiance de refaire ce genre d'étape de mise en clarté, de mise en action. On teste autre chose et on se fait confiance à avoir la ressource pour trouver des solutions le moment venu. Ça, c'est hyper important, en fait, de savoir échouer, en fait. De savoir échouer, de savoir persévérer quand même. Mais pour avoir l'énergie de tout ça, d'entrer dans cet état d'esprit-là, ce n'est que mon humble opinion, mon expérience personnelle, hein, à vous de tester, d'adapter à qui vous êtes, mais pour moi personnellement, ce qui m'a permis d'entrer dans cet état d'esprit constructif, ça passe d'abord par prendre le temps d'accueillir mes émotions, qui est la première étape, de m'écouter, de reconnaître mes besoins, puis, deuxième étape, clarifier ce que je veux vraiment pour moi. Donc, première étape, accueillir les émotions, deuxième étape, gagner en clarté, troisième étape, passer à l'action. Si vous avez besoin d'un endroit où commencer pour cette démarche-là, peut-être que les personnes qui suivent le podcast depuis longtemps se souviendront du voyage créatif, qui est une structure en 6 phases que j'ai mise en place il y a quelques années pour m'aligner à l'époque et que je suis en train de mettre à jour depuis l'automne pour l'adapter à qui je suis devenue. Notamment, j'embrasse beaucoup plus l'aspect artiste et créatif de ma personnalité. Et du coup, j'ai repris le voyage créatif depuis la première itération de cette structure que vous avez peut-être connue. Et depuis quelques mois, j'utilise ce voyage créatif un petit peu mis au goût du jour depuis que je suis entrée dans cette phase de transition professionnelle et il m'a énormément aidée à passer ces 3 étapes dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, les phases de simplicité et d'introspection m'aident à l'écoute de mes émotions. Les phases d'inspiration et de création m'aident pour gagner en clarté. Et les phases d'organisation et de connexion m'aident pour le passage à l'action. Si vous souhaitez explorer le voyage créatif, j'ai mis à jour le PDF gratuit qui contient chacune de ces 6 phases avec des explications simples pour que vous ayez une base à utiliser facilement. J'ai aussi rassemblé les ressources existantes autour de chacune des phases, donc par exemple les podcasts passés, les articles de blog passés, ce genre de choses-là. J'ai tout rassemblé sur mon site, donc sur floriteller.com/voyage-6-créatif sans accent sur le E. Si ça peut vous aider à faire votre bilan du moment, et le lien il est dans le... je vais le mettre dans les notes de l'émission. Si vous écoutez ce podcast longtemps après sa publication, cette page floriteller.com/voyage-6-créatif est le point de départ de toutes les ressources qui existent autour du voyage créatif. Donc si jamais j'ai publié de nouveaux contenus ou de nouvelles ressources autour du voyage créatif entre le moment où j'enregistre ce podcast et le moment où vous l'écoutez, c'est sur cette page-là que vous verrez toutes les dernières informations, les dernières ressources. Si vous êtes mécène sur Patreon, j'ai publié une vidéo bonus en décembre 2023 pour tous les paliers, où j'ai détaillé un bilan de l'année en utilisant chacune des phases du voyage créatif en guise d'exemple, si jamais ça peut vous inspirer et vous aider à utiliser cet outil pour vous-même. Et si vous êtes sur le palier cappuccino ou supérieur, parce qu'il y a plusieurs paliers de participation sur Patreon si vous ne le savez pas. Donc il y a un palier qui s'appelle cappuccino. Et si vous êtes sur ce palier-là ou au-dessus, j'ai également fourni un petit PDF avec 6 questions, 6 énoncés quelque part, 6 idées on va dire, une pour chacune des phases du voyage créatif, en guise de référence si vous souhaitez faire ce même point de l'année en utilisant la structure du voyage créatif. Alors je parle assez peu du contenu de la page Patreon sur le podcast parce que, en général, j'ai juste envie que vous sachiez que ça existe si vous voulez soutenir l'existence de ce podcast qui est disponible gratuitement. Mais sachez que tous les paliers ont accès à ce genre de contenu bonus, audio ou vidéo, chaque mois. Donc je publie un contenu bonus par mois pour tous les paliers de la page Patreon, tous les mécènes payants de la page Patreon. Le palier cappuccino a accès à toute une bibliothèque d'archives de ce type de ressources numériques que je remplis petit à petit depuis que je tiens cette page de mécénat, donc depuis 2019. Du coup, la bibliothèque d'archives est assez fournie et quand vous rejoignez Patreon, vous avez accès à toutes les archives. Donc ça commence à faire pas mal de ressources à disposition, de ressources créatives, simples et sereines si ça vous intéresse. Et enfin, il y a 4 paliers au total. Les 2 paliers supérieurs qui s'appellent Matcha Latte et Thé d'Exception reçoivent également une lettre de papeterie créative imprimée que j'envoie par la poste chaque mois. Si vous êtes comme moi, aficionado de papeterie et de créativité manuelle autour de carnets, d'adhésifs, de tampons, de choses comme ça, et bien peut-être que ça peut vous intéresser de recevoir des cartes postales, des planches adhésives, des choses comme ça tous les mois. Par contre, sachez que ces deux paliers-là, sont limités en nombre de mécènes, puisque je suis seule pour tout créer, tout imprimer et tout envoyer chaque mois. Donc j'ai une limite du nombre de personnes que je peux gérer à ces paliers-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site patreon.com/floriteller si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les bonus des différents paliers. Et si vous voulez voir s'il reste de la place aux deux paliers de papeterie créative au moment où vous écoutez ce podcast, si ça vous intéresse. En ce qui concerne le voyage créatif, j'ai plein d'idées pour en parler davantage dans le futur, maintenant que je l'ai un peu mis à jour et que je l'ai un peu aligné justement avec qui je suis en tant qu'artiste pluriel et slow. Donc du coup, on en reparlera, je pense, dans les contenus futurs, que ce soit en podcast, dans les bulles nomades, en vidéo sur la chaîne YouTube, et probablement dans des contenus un petit peu plus en profondeur qui paraîtront dans la boutique de Café aux Étoiles quand ils seront prêts. Et pour rappel, floriteller.com/voyage-créatif pour aller voir tout ce qui est disponible à ce jour. Quant au contenu autour de la fin d'année, etc., si vous écoutez ce podcast au moment de sa publication à la fin 2023, ou si vous venez le réécouter à la fin d'une autre année dans le futur, ce n'est pas le seul contenu de fin d'année, ce n'est pas non plus le dernier, puisqu'on reparlera encore de ce genre de sujet dans les premières bulles nomades de 2024. Et si vous consultez YouTube, si c'est une plateforme que vous utilisez, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube qui s'appelle Floriteller, où j'ai également prévu des petites vidéos autour d'un thé pour vous parler de l'intention de l'année, de résolution sereine et de sujets de ce type-là. Donc, si vous aimez les contenus type bilan de fin d'année, objectif, organisation, machin, j'ai plein de petits trucs sympas qui sont prévus pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En attendant, merci infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a inspiré, si vous avez des idées ou ressources pour faire le point, mettre en place des objectifs et intentions, n'hésitez pas à les partager avec les autres poditeurs et poditrices en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/BN195, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF. Vous pouvez aussi venir en discuter sur le Discord de Café aux Étoiles, qui est un serveur communautaire, dont le lien d'invitation est dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi me contacter en privé via floriteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique le premier dimanche de chaque mois, que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. Elle fait une petite pause en ce moment, mais elle reprend début 2024. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !